qui est un ami de longue date, accompagné de sa merveilleuse épouse Virginie, une amie aussi de très longue date. Et ça faisait voilà, quelques années qu'on n'avait pas eu l'occasion de se revoir. Et je remercie Charles d'avoir accepté de venir jusqu'à Nîmes. Nîmes. Pour nous aider à approfondir la compréhension des exhortations bibliques avant que vienne la fin. Et ce matin, nous voulons encore être au bénéfice de son enseignement. Alors, cher Charles, je t'invite à nous rejoindre, on peut l'applaudir pour l'accueillir. Les gens m'ont demandé si j'étais de mariage, parce que j'ai mis un nœud papillon. Mais j'étais dans la joie, parce que j'ai un ami, et je vais prier pour que le Seigneur te bénisse. Voilà. Seigneur, merci pour le ministère de Charles, pour ton Église tout entière, à travers l'enseignement de ta parole, et merci pour ce que tu lui as donné de transmettre. Nous prions que ton Esprit Saint vraiment libère en lui toutes les paroles que tu as déjà mises sur son cœur. Et nous prions que nous soyons à l'écoute et réceptifs de tout ce que tu veux nous donner et que ta vie jaillisse en abondance en attendant ton retour glorieux. Amen.
Amen. Un grand merci, Paul Achille. C'est comme ça que nous l'appelons, même si ça fait sourire certains. Et un grand merci vraiment pour votre accueil, pour votre belle église, pour vraiment vos sourires. On se sent un peu comme à la maison. Et je remercie vraiment le Seigneur pour cette opportunité que, grâce à votre pasteur Paul, grâce à Paul Achille, nous avons de nouveau eu. Et en fait, comme je disais en fait, vendredi, c'est la première fois que nous mettons les pieds sur Nîmes. Et on est tellement bien que j'ai l'impression en fait, que vous êtes en vacances tout le temps. En fait. Merci Seigneur, en tout cas, vraiment. Et donc, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être là. Et en tout cas, j'ai l'accord et le soutien du conseil pastoral de l'église de Chapelle pour venir ici, et donc je vous présente leur salutation, même si vous ne connaissez pas l'Église, en tout cas les anciens pensent bien à nous ce matin. Même si je suis en Belgique, en fait, mais la France, et en particulier Lyon, est ma ville d'accueil en Europe, parce que ça fait plusieurs années déjà donc, que j'avais débarqué à Lyon pour faire médecine, et c'est vraiment là que le Seigneur a changé mes plans, et je me retrouve donc... Je me suis d'abord retrouvé à Paris, après à Bruxelles maintenant, et notamment auprès de ma femme que j'ai rejoint en Belgique. Alors, on a vu vraiment pendant tous ces trois jours avec celui-ci, un thème, le thème notamment de l'évangélisation et de la fin du monde. Et pour notre prédication, je me suis dit que ce serait bien de rester dans cette ligne-là. Donc en fait, j'aimerais nous inviter à tourner nos yeux vers le Seigneur Jésus qui revient. Et une phrase peut-être commencer ce moment, c'est « Seigneur, quand reviens-tu ? » Je me souviens qu'en 2022, en fait, nous avons célébré un mariage, un des mariages en tout cas, mais ce mariage était vraiment intéressant parce que pendant une heure et demie, nous avons attendu les mariés. Et on commençait à s'impatienter en disant mais ils ont peut-être oublié ou heureusement que je les avais quand même au téléphone. Mais après une heure et demie, enfin ils sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, la joie de les voir a éclaboussé vraiment tout ce temps d'attente. Et on a vraiment été transportés d'allégresse pendant le beau moment de célébration qui a eu lieu. Et justement avec cela, la phrase « Seigneur, quand viens-tu » peut résonner souvent et le Seigneur peut se faire attendre. En tout cas, qui de nous ne s'est jamais posé cette question de « Quand, Seigneur, reviens-tu » Et on pose en général cette question quand les choses sont difficiles, quand les choses ne tournent pas rond comme on le voudrait. Et en lien avec cela, donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles, ou ouvrir vos GSM, ou vos applis, comme vous voulez, sur 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, on va lire simplement les 14 premiers versets. Et l'apôtre Pierre écrit et il dit ceci. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et l'autre, je cherche à éveiller des avertissements. Je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par les apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout existe comme au commencement. » Verset 5. « Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, et de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les eaux qu'elle renferme, sera consumée. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles doivent être la sainteté de votre conduite et votre piété? Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Et je prie vraiment que le Seigneur nous rafraîchisse par sa parole. Ce texte vraiment est riche, il est riche en lui-même. Et je vous invite simplement à regarder ensemble trois questions pour ce matin. Tout d'abord, les moqueurs ont-ils raison de se moquer de ce jour que le Seigneur Jésus nous a promis? Deuxièmement, pourquoi ce jour tarde? Et puis, troisièmement, que faire? Que faire en attendant? Et pour ça, j'aimerais surtout en fait m'arrêter sur les versets 3, 9 et 12. Mais avant cela, j'aimerais juste en fait attirer votre attention sur le verset 1. Le verset 1, en fait, où on voit que Pierre écrit déjà pour la deuxième fois à ces chrétiens de Galatie qui sont dispersés en fait en Galatie, en Asie et etc. Pierre avait déjà écrit une première lettre et rassurez-vous, cette première lettre a été lue par ces chrétiens qui sont maintenant dispersés dans ces régions que je viens de citer. Et du coup, laisse-moi juste te poser cette question, cher ami. As-tu déjà lu cette première lettre de l'apôtre Pierre? As-tu déjà lu peut-être la deuxième lettre? Ou tout simplement, est-ce que tu as lu ce matin ta Bible avant de venir au culte? Peut-être que tu as été affairé à préparer les enfants, à courir, à faire le petit-déj, et que finalement, tu n'as même pas eu le temps de lire ta Bible avant de venir. Pourtant, c'est là le principal. En fait, si tu ne lis pas ta Bible, si nous voulons grandir, comment allons-nous faire pour grandir spirituellement? De même que notre corps a besoin de nourriture physique, de même notre âme a besoin de nourriture spirituelle que l'on trouve d'abord dans la parole de Dieu et que son Esprit Saint émerveille, éclaire à nos yeux. En tout cas, si tu ne lis pas ta Bible, ne t'étonne pas que tu sois toujours au même niveau, que tu ne grandisses pas. Mais alors, pourquoi ne pas peut-être t'engager aujourd'hui à lire ta Bible avant de sortir de la maison et que ce jour-ci ne se reproduise plus? En tout cas, regardons nos questions. Tout d'abord, nos moqueurs du verset 3. Qui sont ces moqueurs du verset 3? En fait, il s'agit, un peu comme on le voit autour de nous, des non-chrétiens, comme on en voit à la fac, comme on en voit au travail, comme on en voit donc autour de nous, ces personnes, en fait, qui se moquent de la foi chrétienne, avec des discours, en fait, parfois, qui semblent avoir du sens. Et cela peut séduire même des chrétiens des églises. Et les moqueurs, ici, se disent, Jésus revient? Ah, vraiment? Voilà tant de temps, tant d'années qu'il a dit qu'il revenait. Où est-il donc? Rien ne vient, et d'ailleurs, rien ne viendra. Et nos moqueurs modernes, peut-être, ajoutent que si on fait juste attention à la couche d'ozone, si on fait attention au CO, si on se met tous à l'électrique, alors le réchauffement climatique va s'arrêter et on va profiter de cette vie-ci encore des milliers, peut-être des milliards d'années à vivre sa vie tranquille. Et le problème, en fait, c'est que lorsqu'on regarde l'histoire, on a tendance à donner raison à ces moqueurs, en fait. Ça fait tant d'années que le Seigneur Jésus a dit qu'il revenait. Et il n'est toujours pas là. En 64, quand Pierre écrit cette lettre, il n'était toujours pas là. Et aujourd'hui, en 2025, il n'est toujours pas là. Est-ce que les apôtres se sont trompés? Évidemment, on va dire non, ils ne sont pas trompés. Puisque le Seigneur lui-même invite ses disciples, en tout cas, à l'attendre. Pourquoi? Parce qu'il viendra, dit-il, comme un voleur. Matthieu 24, par exemple, versets 43 et 46, disent cela. Et Pierre, d'ailleurs, reprend cela ici au verset 10. Il dit, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Alors, juste à nos moqueurs modernes, il faut juste faire remarquer quelque chose. C'est que c'est une évidence. C'est que si le jour du Seigneur, déjà en 64, était déjà proche, 1900 ans plus tard, ben, il est davantage proche. On est d'accord? C'est quand même logique. Et justement, en fait, puisqu'on parle de 1900 ans, comme le dit Pierre, en fait, au verset 8, nous ne devons pas oublier que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Un jour est comme 1000 ans. Alors là encore, vous voyez, hein, cela ne veut pas dire qu'un jour pour Dieu égale 1000 ans. Non, Dieu sait très bien compter. Hein, jusqu'à 1000, il n'y a pas que ça qu'il sait compter. Il est dit comme 1000 ans. Donc ça veut dire en fait que Dieu maîtrise l'histoire. Il maîtrise l'histoire d'un jour comme l'histoire de 1000 ans ou comme l'histoire de milliers d'années. Laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, Dieu maîtrise tout ce qui se passe. Dieu maîtrise ton histoire. Elle peut être compliquée, mais Dieu la maîtrise. C'est lui qui la commande. C'est lui qui l'a faite. Il sait ce qu'il fait. Fais-lui confiance. Et parce que justement, vous voyez, un jour est comme 1000 ans pour Dieu, vous voyez, on a parfois un problème de timing. Nous sommes, ouais, vous voyez, en fait, nous, on est impatients. On veut que les choses se passent. Vous voyez, Paul Achille m'a dit, dans une demi-heure, voilà. On a un timing. On est impatient, alors en fait que le timing de Dieu n'est pas tout le temps le nôtre. Dieu a le temps, mais nous sommes parfois assez souvent impatients. Mais Dieu, vous voyez, il a toujours le temps. Regardez par exemple en Juges 3, en Juges 13, on voit qu'en fait Israël souffre de ses péchés d'ailleurs, et à cause de ça, il est oppressé par les Philistins, et le peuple de Dieu crie à Dieu. Et Dieu écoute la voix du peuple. et il lui envoie un sauveur. Ce sauveur, c'est qui ? C'est le bébé Samson. Oui, le bébé Samson qui va prendre sans doute 25 ans, peut-être 30 ans à être un jeune homme capable de défendre le peuple. Et c'est seulement après, en fait, qu'il va délivrer le peuple. 30 ans plus tard. 30 ans plus tard, c'est là, finalement, que Dieu va libérer le peuple. Et d'ailleurs, ce Samson, c'est une figure, en fait. Il préfigure le grand sauveur qu'est Jésus-Christ, que sera Jésus-Christ à partir de son époque. Et justement, vous voyez, Jésus est venu. Ça, c'est indubitable. On l'a chanté encore tout à l'heure. Merci vraiment pour le groupe de louanges. Vraiment qui, vous êtes vraiment gâtés d'avoir un si bon groupe de louanges. Je loue le Seigneur vraiment pour cela. En tout cas, donc, Jésus vient. Et vous voyez, en fait, les Israélites vont encore attendre. Ils vont attendre 30 ans plus tard pour voir Jésus enfin mature dans sa splendeur et commencer son œuvre de rachat, du salut des Israélites et de tout le monde entier. Et pour ça, il a encore fallu attendre. Donc, vous voyez vraiment, Dieu a le temps. Dieu prend son temps. Et les bonnes choses se font avec du temps. Mais nous, nous sommes impatients. Vous voyez, parfois, on dit, mais Seigneur, ça fait une semaine que je te prie pour ce sujet, ou un mois, et tu n'as toujours rien fait. Dieu a le temps. Et je pense vraiment qu'il nous faut apprendre à considérer les choses comme Dieu les considère. Il nous faut vraiment apprendre à comme laisser battre notre cœur au rythme du timing de Dieu. De toute façon, c'est la meilleure manière, c'est la seule chose que nous ayons vraiment à bien faire. Parce que Dieu sait exactement pourquoi ce sera à ce moment-là et pas à tel autre moment que nous attendons peut-être le plus. Mais en même temps, il faut vraiment l'avouer, les choses semblent plutôt tarder quand même. Dieu semble vraiment prendre son temps. Et du coup, mais, Seigneur, pourquoi ? Pourquoi non ? Pourquoi tardes-tu, Seigneur ? C'est notre deuxième question. Pierre est assez clair à ce sujet au verset 9. Il dit en fait, le Seigneur ne tarde pas sa promesse. Il use de patience. Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Donc vraiment là, si la fin tarde, c'est parce que, dit ce verset 9, Dieu est patient. Il veut que tous ses enfants soient sauvés. En fait, il veut que tous, s'il en manque un, il va tarder. Peut-être que c'est toi qui manques ce matin. Si la fin tarde, c'est parce que Jésus veut en fait que tu abandonnes ta mauvaise vie, peut-être aujourd'hui en fait, pour te tourner vers lui. Et du coup, j'ai envie de te demander simplement, mon frère, ma sœur, peut-être que tu sens ta vie vide de sens ce matin, comme je l'ai ressenti, comme je le ressentais en fait, en pleine médecine à Lyon, il y a plusieurs années maintenant, peut-être que tu sens que ta vie est vraiment fade, sans sens, sans but. Alors j'aimerais te dire que si tu es encore vivant, si le Seigneur Jésus n'est pas encore venu, c'est parce qu'il veut que tu trouves la paix en lui, que tu te tournes vers lui, que tu acceptes cette œuvre qu'il a faite à la croix, que tu laisses tes péchés lavés par son sang, comme on l'a notamment aussi chanté tout à l'heure. Il veut que tu demandes, que tu ouvres ton cœur, que tu lui demandes pardon pour tes fautes, pour tes péchés et que tu lui demandes de venir dans ton cœur. Voilà ce qu'il te demande aujourd'hui, encore ce matin. En tout cas, en lisant la parole de Dieu dans Matthieu 24 au verset 14 qu'on a bien considéré ces deux derniers jours, on voit en fait que si ça tarde, c'est pour que la bonne nouvelle soit annoncée à tous les peuples, en particulier non-juifs. Et donc en fait, c'est ça la raison pour laquelle les choses tardent. Si ça tarde, ce n'est pas parce que Dieu attend que le monde fasse encore les derniers progrès technologiques. Ce n'est pas parce que Dieu attend que tu aies fini de payer tes impôts ou de payer ta maison. Si tu veux une maison à payer, je peux te passer la mienne, en tout cas. Il ne veut pas que ton crédit soit terminé ou que tu termines de construire ta belle maison. En tout cas, dans les, vraiment les difficultés que nous vivons, encore ici-bas, il faut vraiment nous souvenir de cela. Et je pense que le regard de la foi doit nous aider et à comme survoler ces difficultés que nous avons encore ici-bas, parce que le Seigneur nous promet encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra. C'est sûr, certain. Hébreux 10, verset 37. En tout cas, c'est sûr aussi, la fin de ce monde ne sera pas naturelle, comme une fin inéluctable due à la fonte des glaces dans les hémisphères polaires ou encore à un réchauffement climatique qui ferait que les mers engloutiraient les terres de 8 mètres ou un C3 ou tous ces scénarios catastrophiques que les scientifiques parfois veulent nous faire croire. Non. La fin est fixée par Dieu. Elle arrivera au moment prévu. Sûr, sûr. Et en ce jour-là, en fait, il est dit que tout sera mis vraiment à nu, comme l'apôtre Paul le dit aussi. Et en ce jour-là, la couronne de justice sera donnée à tous ceux qui auront aimé et attendu son avènement. Donc 2 Timothée 4, au verset 8. Et ma prière vraiment, c'est que nous puissions désirer ardemment ce jour-là, ardemment ce jour où on sera dans ce nouveau cosmos, ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre où la justice habitera. D'accord, d'accord, c'est beau, c'est bien, c'est beau d'espoir. Mais alors, d'ici là, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est notre troisième question. D'ici là, que faire? Alors, on a la réponse au verset 12, et là, la parole de Dieu est vraiment toute suffisante. Au verset 12, Pierre nous utilise deux verbes, en fait, pour nous dire ce qu'il y a de faire. Il dit « Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu ». Réponse donc « Attendre ». Et hâter. Il y a un peu comme une contradiction entre ces deux verbes. Je dois attendre et je dois hâter. Attends, vraiment, t'es sûr, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Attendre et hâter. D'abord, attendre. Et vous voyez, en fait, qu'il ne s'agit pas, notamment ici, d'une attente passive. Il ne dit pas, oui, assieds-toi sur la chaise, prends Netflix, finis ta série. Non, non, ce n'est pas ça, en fait. C'est une attente vraiment active. Il est dit là, en fait, dans ce verset 12, c'est pour cela, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tâche et sans défaut dans la paix. Sans tâche et sans défaut. Vivre, en fait, d'une manière que Dieu aime, d'une manière droite, que ce soit à la maison, à l'école, au travail, sans tâche et sans défaut. Voilà ce que Dieu attend de chacun de nous. Et ça peut se faire tous les jours. Et bien sûr, on peut tomber dans une tâche ou un défaut et se relever et faire le nécessaire pour continuer cette vie-là. Et justement, ici, mon frère, ma sœur, ma question est peut-être de te savoir, face à ce texte, ce verset 14 de Pierre 3, est-ce que ta vie est sans tâche et sans défaut devant Dieu? Qu'en est-il peut-être de ta vie intime que personne ne voit? Est-ce que ta vie est sans tâche et en ordre devant Dieu? En tout cas, si ce n'est pas le cas, Jésus t'invite aujourd'hui même à changer de vie et à vivre d'une manière qui lui plaise. Dans ce domaine, en fait, qui concerne les tâches et les défauts, notre vie, en fait, intime, en particulier sexuelle, a un grand problème parfois. Notre société, en tout cas, a un grand problème dans ce domaine. Peut-être que tu vis une vie de concubinage. Peut-être que ce que Dieu te demande, en tout cas au rêve de sa parole aujourd'hui, c'est de penser à mettre les choses en règle. Pourquoi pas envisager de te marier? En tout cas, Dieu nous invite à vivre sans tâche, sans défaut, d'une manière qui lui plaise. Donc nous devons donc attendre en vivant sainement devant lui. Et en même temps, nous devons être prêts à mettre notre volonté en action, ce qui me permet de parler du deuxième verbe, le deuxième verbe qui est hâter. Donc attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. C'est assez surprenant vraiment, assez surprenant de voir que Pierre dit cela assez clairement ici. En fait, Ce qu'on voit, c'est qu'on peut hâter le jour de Dieu. On peut hâter le moment où on verra Jésus. C'est ce qu'on a un petit peu vu ces deux derniers jours. On peut hâter ce jour où nous verrons le Seigneur. Comment hâter la venue du jour de Jésus ? Comment hâter ce qu'il a fixé d'avance ? C'est vraiment un peu paradoxal tout ça. Incompréhensible. Mais en fait, avec le grand Dieu, ce Dieu-là, en fait, qui sait tout, il sait en fait mettre tous nos efforts, même nos attentes parfois passives, mettre tout ça ensemble, de sorte en fait à pouvoir fixer un jour et en tenant compte de tous nos efforts. Voilà le Dieu auquel nous croyons. Ce Dieu-là qui n'est surpris par rien et en même temps qui nous stimule, qui veut qu'on aille de l'avant pour hâter ce jour qu'il a fixé en effet. Est-ce qu'il déplace ce jour au fur et à mesure ? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nos efforts ne sont pas vains. Quand nous faisons quelque chose pour lui, c'est pas rien. Il tient compte et il le met dans sa balance pour faire hâter ce jour qu'il a fixé. L'Écriture nous montre en fait que de manière globale, c'est la prière et l'évangélisation qui sont ces deux manières-là que Dieu nous donne pour hâter le jour du Seigneur. Et dans ce cas, pourquoi ne pas peut-être t'engager aujourd'hui à prier chaque jour pour ceux qui annoncent l'Évangile ? Pourquoi ne pas prier pour ton pasteur et le conseil pastoral jour après jour ? Pourquoi ne pas prier pour ton responsable d'évangélisation jour après jour ? Pourquoi ne pas prier pour ceux qui ont à cœur cela ? Et pourquoi ne pas commencer peut-être à réfléchir de savoir si tu ne vas pas quitter ton travail ou emménager ton travail de manière à pouvoir annoncer de manière plus efficace cet évangile autour de toi, de tes voisins. Et pourquoi ne pas réfléchir peut-être en église, pour voir ce que l'église peut davantage faire pour que l'évangile soit porté non seulement ici à Nîmes, mais jusqu'aux extrémités de la terre, en passant peut-être par la Belgique et le Cameroun. En tout cas, aussi surprenant que cela, le jour du Seigneur, le jour du retour du Seigneur dépend de ces projets que nous allons faire aujourd'hui. C'est vraiment assez frappant, c'est surprenant. Cela dépend de cela. Alors, je conclue. Qu'est-ce qu'on a vu ce matin ? On a vu essentiellement trois choses. Trois choses. D'abord que si nous voulons grandir spirituellement, eh bien, il n'y a pas de secret. Il nous faut découvrir les trésors que Dieu nous laisse dans sa parole, et cela jour après jour, dans la lecture, la méditation de sa parole, en priant que le Saint-Esprit vraiment illumine nos yeux pour que nous puissions comprendre, que cela devienne vie en nous. Deuxième chose que l'on a vu, c'est que les moqueurs autour de nous n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison. Si le Seigneur tarde, en fait, ce n'est pas parce qu'il a oublié quoi que ce soit, c'est simplement parce qu'il est patient. Il veut laisser une dernière chance à celui qui n'est pas encore en règle avec lui. Il veut que tu sois sauvé. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Et troisième chose que l'on a vu, c'est par l'évangélisation et la prière qu'on peut vraiment hâter ce jour-là. Et en attendant, on a vu notamment qu'il nous faut patienter en étant activement, en ayant une vie activement saine, sans tâche, sans défaut. Et j'aimerais peut-être simplement te demander ce matin avant de prier, si Dieu tarde, c'est parce qu'il veut que tu te mettes en règle avec lui. Ça, c'est clair, c'est certain. Qui sait ce qui va arriver demain ou tout à l'heure quand le culte sera terminé ? Qui sait si je vais vraiment arriver à Bruxelles par la grâce de Dieu ? De toute façon, si je n'arrive pas, sachez que je vous ai devancé. Bon. Qui sait en tout cas ce qui va t'arriver cet après-midi ? Peut-être en fait que on a pris la Sainte-Sainte tout à l'heure et le pasteur Paul a bien rappelé. Peut-être que tu vois les éléments défiler devant toi. Peut-être même que tu participes, tu ne sais pas en fait à quoi vraiment tu participes. Peut-être que tu n'as jamais fait ce pas de prendre ta vie, ton espérance, pour la placer en Jésus. Peut-être que tu ne t'es jamais mis au bénéfice de cette œuvre que le Christ a faite pour toi sur la croix. c'est peut-être ton moment aujourd'hui. Et j'aimerais simplement te dire que j'aimerais prier pour toi. Et peut-être, si tu veux, si tu sens que c'est le jour aujourd'hui, alors tu peux simplement lever ta main à ta place et j'aimerais prier pour toi. Qui veut prendre la décision aujourd'hui de confier sa vie à Jésus, d'avoir vraiment un point de départ aujourd'hui avec Jésus pour toujours? Si c'est ton cas, lève simplement la main pendant que je vous invite à incliner nos têtes dans la prière. D'accord. Qui veut prendre également cet engagement aujourd'hui de suivre le Christ Jésus? D'accord. OK.